décortique Le retrait de l'État par Susan Strange, un ouvrage paru en 1997. Et c'est Christian Chavagneux qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à Alternatives économiques et rédacteur en chef de la revue L'économie politique. Alors Susan Strange, pour la présenter en quelques mots, c'est une journaliste britannique née en 1923. Elle a été la plus jeune correspondante nommée à la Maison Blanche. Elle travaillait alors pour l'hebdomadaire The Observer. Elle va ensuite, en tant que chercheuse, cette fois, développer une nouvelle approche de l'économie politique internationale. On y reviendra. Mais d'abord, commençons par la thèse de son livre, Le retrait de l'État. Susan Strange y explique que le pouvoir des États ne cesse de reculer dans l'économie mondiale au profit d'autres acteurs non étatiques, dont les multinationales. Et elle cherche à montrer comment et pourquoi on en est arrivé là, pour reprendre ses propres mots.
Vous l'avez dit, c'est une question sur le pouvoir, en fait. Qui dirige l'économie mondiale? Qui est capable d'écrire les règles du jeu dans lesquelles les autres acteurs vont s'inscrire? Les économistes, ils vous disent traditionnellement, c'est les États qu'ont décidé les États-Unis ou les États ensemble. Qu'est-ce qu'a décidé le G20 ou le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale? Strange dit, attention, dans les acteurs capables d'écrire les règles du jeu de la mondialisation, les règles dans lesquelles les autres vont devoir s'inscrire, obéir à ces règles, eh bien, il y a beaucoup d'autres acteurs, les acteurs privés de manière générale, dans lesquels, elle met, vous l'avez dit, les multinationales, mais aussi les organisations non gouvernementales, mais aussi les mafias, par exemple.
Et alors justement, ces mafias, ces multinationales, ou encore ces banques ou ces ONG, comment ces acteurs non étatiques influencent-ils les règles du jeu de la mondialisation?
Alors là, il y a plusieurs créneaux possibles. Par exemple, vous avez, quand vous voulez comprendre ce que c'est qu'une entreprise, vous regardez sa comptabilité. Qui écrit les règles comptables? Aujourd'hui, les règles comptables internationales, elles sont écrites par des grands cabinets d'avocats, par exemple, des grands cabinets de comptables qui ont tendance à écrire les règles du jeu de telle sorte qu'une entreprise soit mesurée comme une somme d'actifs qu'on peut acheter et vendre comme on veut. Comme un marché financier, non pas comme vraiment un collectif qui doit durer dans le long terme, faire attention à son rôle social, attention à ses salariés, voilà. Par exemple, écrire les infrastructures de la mondialisation comme les normes comptables. À l'inverse, vous avez, ou à l'opposé, vous avez des banques, par exemple, qui à la fin des années 90 sont capables d'écrire les règles du jeu de la régulation financière. Donc là, on va du plus petit, écrire les infrastructures, les règles du jeu qui permettent de définir les infrastructures de la mondialisation, jusqu'au plus gros, j'écris les règles qui concernent mon secteur.
Alors, contre ceux qui pourraient critiquer cette idée d'un recul de l'État qui détient tout de même un pouvoir de régulation, Susan Strange explique qu'il s'agit moins de la quantité d'autorité exercée par les États que de la qualité de cette autorité.
C'est ça, c'est que elle s'adresse aux spécialistes de relations internationales qui pensent le pouvoir comme un pouvoir relationnel. C'est comme un gros costaud face à un petit. Le gros costaud, il est plus fort. Non, nous dit Strange, le pouvoir dans le monde, il est beaucoup plus subtil que ça. C'est du pouvoir qui est structurel, c'est-à-dire, encore une fois, la capacité dans des structures un peu clé de la mondialisation, la sécurité, la production, la finance, le savoir, d'être capable d'écrire les règles du jeu. Et ça, les États, bien sûr, peuvent écrire des règles du jeu, mais d'autres acteurs peuvent le faire aussi.
Alors le problème qui est soulevé par Susan Strange, c'est qu'une partie de cette puissance perdue par les États n'a pas été transférée à d'autres acteurs vraiment identifiables. Alors en quoi consiste cette zone de non-gouvernance dont elle parle?
C'est ça, c'est l'un des résultats de la méthode Strange, c'est que d'un côté, les États-Unis restent quand même l'État le plus puissant. De l'autre côté, tous les États, y compris les États-Unis, doivent faire face à la montée en puissance des acteurs privés, multinationales, mafias, ONG. Mais il y a des zones, le droit international, la finance internationale, où les règles sont finalement peu écrites et où personne n'a voulu le résultat qui est donné. Elle est déjà en train de prendre cet exemple alors qu'on n'en parle qu'aujourd'hui, les paradis fiscaux. Elle nous dit, personne n'a voulu les paradis fiscaux. Ni les États-Unis, ni les Caïmans, ni la Suisse n'ont voulu bâtir un système mondial de toile d'araignée où l'argent opaque va aller se cacher. Et pourtant, les paradis fiscaux, on le constate, ils sont là. Voilà, ce sont des zones de non-gouvernance internationale.
Et alors, qu'est-ce qui rend la thèse de Susan Strange si originale à l'époque? Parce que je rappelle que son livre, Le retrait de l'État, est publié en 1997.
Alors, je crois même que c'est 96 pour la première édition, je crois. Qu'est-ce qui le rend original? C'est que personne ne répond à cette question. Les économistes, les questions de pouvoir, ça les intéresse pas. On peut pas le mettre dans les modèles, on peut pas le quantifier. Les spécialistes de relations internationales, eux, ce sont des spécialistes de sciences politiques. Les questions de pouvoir, ça les intéresse, mais en économie, ils sont nuls, il faut le dire. Et donc Strange dit, vous l'avez dit dans votre introduction, elle bâtit une nouvelle approche. L'économie politique internationale, c'est mélanger les enseignements de l'économie internationale, de la politique internationale, tout ça en longue durée. Elle a lu Braudel dans tous les sens. Et avec ces trois disciplines, disciplines qu'elle essaye de mélanger. Elle crée une nouvelle approche et ça, c'est complètement original.
Et alors justement, comment est-ce qu'on peut définir précisément ce courant de pensée de l'économie politique internationale? Il faut dire peut-être qu'il y a une école américaine contre laquelle Susan Strain se positionne. Elle crée alors l'école britannique.
Oui, tout à fait. Il y a une école américaine qui existe depuis le début des années 70 et qui, en fait, comme dit Susan Strain, singe les économistes. C'est-à-dire qu'on fait des beaux modèles théoriques dans lesquels il y a un agent représentatif qui est en interrelation, en interaction avec un autre agent représentatif, un état A, un état B. On fait des grands modèles théoriques. Strain dit, attendez, la réalité, c'est pas ça. Il faut rentrer concrètement. Qui dirige la finance internationale? Est-ce que Apple dirige vraiment le marché des téléphones portables? Elle rentre toujours dans le concret et son livre est plein d'exemples concrets. Le rôle des assureurs, le rôle des agences de notation, le rôle des financiers, etc. etc. Elle dit, il faut absolument qu'on ait une approche, une méthode d'analyse de la mondialisation et de l'analyse du pouvoir dans la mondialisation qui sortent des modèles. Et ça, c'est cette approche britannique qui va essaimer un petit peu partout dans le monde, sauf en France.
Alors justement, Susan Strain a été professeure à la London School of Economics, où elle réussit à imposer la création d'un master en économie oui. politique internationale. Comment expliquer que ça n'ait pas pris en France?
Eh ben, c'est très difficile à comprendre. Je pense que les économistes français sont vraiment enfermés dans leur bulle modélisatrice et quantitative, et donc les questions de pouvoir, comme disait l'un des grands économistes français, Léon Valras, qu'un économiste, enfin que quelqu'un prenne un poison pour guérir quelqu'un ou pour le tuer, du point de vue de l'économie, bah pour nous, ça nous intéresse pas. Toutes ces questions de pouvoir, de rapport de force, c'est pas pour nous. Et du côté des relations internationales, il y a une toute petite, quelques professeurs, notamment à la Sorbonne, qui se sont intéressés aux écrits de Susan Strain, comme Joseph Laroche, mais à part ça, ça n'a jamais pris.
Alors depuis l'apparition de son livre, donc en 1996, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la tendance d'un pouvoir croissant des marchés n'a fait que s'accentuer.
Oui, tout à fait. Le pouvoir croissant des multinationales en général, au-delà des marchés financiers, oui, oui, bien sûr, les grandes multinationales sont capables d'écrire les règles du jeu, par exemple de la propriété intellectuelle. Jamais aujourd'hui dans toute l'histoire du monde, depuis qu'il y a de la propriété intellectuelle, on a une protection de cette propriété qui va aussi loin, qui dure aussi longtemps. C'est pour se constituer des rentes de situation. Et Susan Strain le démontre. Elle dit, faut pas parler du pouvoir des multinationales en général. Elle dit, il y a un vrai triangle diplomatique qui est les relations entre les États. Ça, on les connaît. Les relations entre les États et les firmes, on les connaît. Mais il y a une diplomatie qu'on étudie très peu, qui est la diplomatie entre les firmes. Et par exemple, sur la propriété intellectuelle, sur les médicaments, sur les films, c'est le résultat d'un travail politique très fort de diplomatie entre les firmes.
Alors il y a une autre grande thèse de Susan Strain qui est évidemment liée à la première, c'est que pour elle, le pouvoir au cœur de l'économie politique peut être exercé de nombreuses façons, et par exemple dans des structures, ce que vous commenciez à évoquer, plutôt que dans des relations directes avec les entités. Alors qu'est-ce que ça signifie, Christian Chavagnier?
C'est vraiment très très fort ça, parce que toute la science politique internationale, elle pense le pouvoir comme quelque chose de relationnel. Quel est le plus fort de nous deux? Voilà, c'est ça la question. Et Strain dit, non, c'est pas ça la question qu'il faut poser, c'est qui va écrire les règles du jeu qui vont faire qu'on va savoir où on va produire des choses pour l'économie mondiale. Qui va produire et où et à quelles conditions? Ça, c'est la structure de production. Qui va pouvoir avoir accès à des crédits et à quel taux d'intérêt? À quel prix? Ça, c'est la structure de finance. Qui va être capable de définir les menaces et les protections face aux menaces? Ça, c'est la structure de sécurité. Et enfin, il y a la structure des savoirs. Qui est capable d'emmagasiner des informations, de les stocker, de les faire circuler? Elle pense, alors qu'il n'y a pas les GAFA encore, et quand elle écrit ça. Et pourtant, elle a déjà ça en tête.
Elle pense en effet quatre structures: la sécurité, la production, la finance et le savoir. Et c'est dans la sécurité que l'État est encore le plus présent.
Oui, tout à fait. L'État est encore présent dans la capacité à définir et à nommer quelles sont les menaces et quelles sont les menaces vis-à-vis desquelles on peut être protégé. Et elle écrit déjà, on est en 1996, que les menaces de demain, c'est la guerre nucléaire possible et le terrorisme. Donc il y a une préscience dans l'analyse de Susan Strain. Elle dit là, oui, les États-Unis restent le pouvoir, l'État hégémonique.
Alors Susan Strain a été critiquée par les économistes orthodoxes pour avoir fourni un diagnostic et non pas un modèle qui permet de prévoir l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout à fait, elle le revendiquait, elle n'était pas du tout une théoricienne. Susan Strain s'attaque à une question quand même extrêmement difficile. Qui détient le pouvoir dans l'économie mondiale? Ça demande de s'intéresser à tellement de sujets qu'elle dit, est-ce que quelqu'un peut avoir l'outrecuidance de nous dire, je veux vous fournir une théorie de l'évolution du pouvoir dans le monde. Elle dit non, moi je fournis une méthode de diagnostic. Parce que Susan Strange, il faut le comprendre, contrairement aux économistes qui se croient très positifs, ils sont neutres, Susan Strange revendiquait la normativité de ses analyses. Moi, je comprends le pouvoir, et si le pouvoir ne me va pas, si les valeurs qui sont mises en avant par ce pouvoir, est-ce que c'est la liberté, est-ce que c'est la justice, est-ce que la sécurité, si ça me va pas, alors je regarde où sont les nœuds de fragilité des accords qui ont été trouvés, et je change le monde. Elle revendique une normativité par une méthode de diagnostic, surtout pas par une grande théorie.
Donc finalement, le fait de ne pas créer de modèle, c'est la force de Susan Strange, selon vous ?
Je pense que c'est en tout cas, ça donne à tous ceux qui veulent essayer de comprendre les rapports de force dans le monde, le pouvoir dans le monde, un outil, une méthode de diagnostic qui est incomparablement puissante, puisque il faut rappeler qu'elle est décédée en octobre 98 et qu'en janvier 99 sort son dernier papier de manière posthume. Et elle dit, je pense que les trois sujets sur lesquels le monde va devoir réfléchir demain, c'est les inégalités, c'est l'instabilité financière et c'est le réchauffement de la planète. Je crois que c'était vraiment très très bien vu.
Belle prophétie, en effet. Et Susan Strange conclut le retrait de l'État en renvoyant l'avenir de la régulation mondiale au problème de Pinocchio. C'est l'idée qu'une fois détachée de ses fils, la marionnette a dû choisir elle-même quelle autorité respecter. Est-ce que c'est comme ça, selon vous, que se dessine la gouvernance mondiale ?
Non, alors ça, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer plusieurs fois Susan Strange. Déjà, elle lui a dit, je suis pas d'accord avec ton argument final. Elle décrit des forces extrêmement puissantes, systémiques, mondiales, et renvoyer la réponse à ces forces systémiques à l'action individuelle. Je dis non, ça va pas, et c'est vraiment plus dans l'action collective, politique, qu'il faut être capable de répondre à ses forces.
Pour conclure, en quelques mots, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment lire Susan Strange, selon vous, Christian Javagneux ?
Parce qu'aujourd'hui, si on veut changer le monde, il faut le comprendre, et si on veut le comprendre, il faut savoir qui est capable d'en écrire les règles du jeu. Et si on en reste aux approches des économistes traditionnalistes, aux approches des spécialistes de relations internationales, on ne pourra pas comprendre le monde.
Donc pour vous, 20 ans plus tard, elle est profondément actuelle ?
Elle est non seulement actuelle, mais comme j'essaie de le montrer, presciente, et elle nous donne des outils qui sont d'une force incommensurable.
Merci beaucoup, Christian Chavagneux.